Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Bien. Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux pour ce deuxième épisode de On jase politique. Donc cet épisode est dédié, vous l'aurez peut-être deviné, prédit aux élections municipales au Québec. Et donc les élections municipales ont eu lieu ce dimanche dernier, avec les résultats qu'on connaît. Et j'ai voulu consacrer cette émission à une analyse globale de ces mêmes résultats avec mon ami Aurélien. Peux-tu te présenter brièvement
Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis Aurélien, je suis un étudiant de l'Université de Sherbrooke. J'ai fait le bac en économie et là je suis à la maîtrise en politique appliquée et internationale. Donc, on était supposé avoir un invité extra qui était aussi un bon expert en politique municipale, mais malheureusement, ils n'ont pas pu venir, mais ça fera l'affaire. Nous connaissons déjà un peu nos affaires par rapport aux élections municipales au Québec en général.
Très bien, merci. Donc, ce sera toi l'expert. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de questions pièges. Donc, pour commencer, en fait, je voulais juste, par rapport aux élections municipales au Québec, je voulais donner quelques avis personnels, en fait. C'est en tant que Français, un avis personnel, c'est une comparaison que je me suis souvent faite depuis que je suis ici. Il y a des différences assez fondamentales entre les élections municipales au Québec et en France. Parce qu'en France, ce sont souvent des partis nationaux qui se représentent pour les grandes villes, enfin pour les grandes villes, mais aussi des petites villes, pour la plupart des villes. Et souvent, les élections municipales en France, d'ailleurs la prochaine aura lieu en 2026, en mars, ces élections sont souvent l'occasion pour les grands partis de placer comme des pions sur le territoire, de développer des soutiens locaux pour des élections qui viennent, mais aussi pour mesurer les rapports de force en vue des élections nationales comme présidentielles ou législatives. Tandis qu'au Québec, on a plus affaire à des partis municipaux, en fait. Il n'y a pas, par exemple, une mairie où c'est explicitement Québec solidaire ou le Parti libéral qui va se présenter. Bon, il peut y avoir du recyclage, mais ce sont toujours des partis strictement municipaux et qui, eux, vont beaucoup plus débattre d'enjeux strictement locaux. Et en ce sens, on va un peu plus souvent s'éloigner du clivage gauche-droite ou, dans le cas du Québec, fédéraliste souverainiste. Donc, personnellement, je trouve ça très noble. Parce que c'est une manière d'épargner un peu les communes des enjeux qui ne les concernent pas toujours directement, comme des enjeux nationaux ou internationaux. Mais j'avoue que par ce biais, j'ai tendance à perdre un peu mes repères. J'ai plus souvent du mal à comprendre sur quoi les candidats se chicanent, parce que j'ai écouté plusieurs débats et c'est intéressant, mais je comprenais un peu moins les enjeux et je comprenais surtout moins sur quoi ils se chicanaient. J'avais souvent l'impression qu'ils étaient à peu près d'accord sur tout. Mais comme moi, je suis un petit peu trop matrixé par les enjeux plus nationaux, forcément, j'ai un peu plus de mal à m'y retrouver. Et donc voilà, après, comme j'ai dit, cette différence n'est pas exclusive. En France, on peut toujours trouver des partis locaux, des partis strictement municipaux, comme au Québec. Et tandis qu'au Québec, donc c'est des partis municipaux, mais parfois ils peuvent débattre, s'ils le veulent, d'enjeux un peu plus globaux. Un autre constat que j'aimerais partager par rapport aux recherches que j'ai faites récemment sur le monde municipal au Québec, c'est que j'ai vu que, d'une certaine manière, la vie municipale, ça ne va pas de soi au Québec. Dans le sens, il y a beaucoup de difficultés particulières liées au monde municipal. Dans le sens tel quel, l'échelon municipal a souvent pris du temps à être reconnu au Canada. Il faut savoir qu'en fait, je pense que peu de gens le savent, mais cet échelon n'est même pas constitutionnellement reconnu. Donc ça tient peut-être plus de la pratique qu'autre chose. Et plus généralement, le Québec est réputé très centralisé en la matière. Notamment, pour faire passer un budget sur les communes, le budget est relativement serré et c'est de quoi dont les gens vont souvent se plaindre à chaque débat municipal. Et en outre, certains clichés qui ont la vie dure, comme par exemple certaines affaires de corruption en politique, qui sont beaucoup perçues dans le monde municipal, peut-être plus qu'au monde, provincial, à l'Assemblée nationale. Donc c'est une vie dure en général. Donc ainsi, on va parler des élections après coup, avec un certain recul, mais toujours à chaud. Et autant que possible, on va essayer de dégager des tendances globales, ce qui est peut-être assez peu fait à date. Donc tout d'abord, je pensais en premier lieu commenter les mandats sortants sur les maires... sur les maires sortants, donc certains qui sont restés, mais certains qui sont restés, certains qui sont partis, qui ont été battus, qui sont juste désistés. En 2021, je n'avais pas tant suivi à l'époque, mais je me rappelais que les médias parlaient de certains profils. On parlait par exemple d'une vague progressiste, en particulier dans les grandes villes, des maires qui le plus souvent étaient élus pour la première fois, entre autres Bruno Marchand à Québec, mais aussi souvent des femmes comme Évelyne Baudin à Sherbrooke, Catherine Fournier à Longueuil, Julie Dufour à Saguenay, ou aussi Valérie Plante à Montréal, mais ce n'était pas la première fois. Les politiques mises en place étaient plutôt réputées progressistes, avec peut-être un peu plus de politique sociale pour lutter contre l'itinérance, construire des logements, ou aussi favoriser des modes de transport alternatifs. Donc Aurélien, je voudrais juste connaître un peu ton avis là-dessus, sur les maires qui sortaient. Est-ce qu'en 2021, ou pendant les mandats de 2021 à 2025, on pouvait parler de vagues progressistes, de mandats progressistes, ou d'une tendance générale progressiste ?
Oui, je dirais que cette vague progressiste ne date pas de 2021. Elle pourrait même un peu dater d'avant, avec l'arrivée de Valérie Plante à Montréal, parce que c'est vrai qu'on pouvait voir peut-être les anciens maires comme à Sherbrooke. C'est vrai qu'avant 2021, c'était Steve Lussier, si je me souviens, l'ancien maire de Sherbrooke, ancien maire. À Québec, à Montréal, à Sherbrooke, c'était plus des centristes, je dirais. Ce ne sont pas des personnes de droite. Peut-être qu'il y avait des personnes de droite, des maires de droite par rapport à maintenir un statu quo. Au Québec, comparé à la France, c'est tout de même très intéressant en tant que Français aussi de voir la différence que, comme tu as dit, il n'y a pas vraiment de partis municipaux. En tout cas, surtout les partis provinciaux et fédéraux qui ne veulent pas s'accaparer des villes, alors qu'en France, c'est tellement fun et municipal parce qu'on se dit à quelle ville va tomber Parti Socialiste, quelle ville va tomber Rassemblement National, etc. Alors qu'ici, bon, c'est un peu moins Game of Thrones. Mais c'est vrai qu'on était plus vers des maires qui étaient plus centristes, peut-être centre-droit, et maintenant on tombe à des maires qui sont plus de gauche. Mais la grande différence avant tout, sur l'itinérance, sur l'insécurité, ils sont tous un peu du même avis. En réalité, on écoute Luc Rabouin et on écoute Soraya Martinez qui vient de gagner à Montréal. Il y a des différences, mais elles ne sont pas énormes non plus. Et c'est plus par rapport à juger l'ancien mandat de Valérie Plante et de leur parti politique et voir si ça a bien marché ou pas que vraiment avoir des différences idéologiques vraiment conséquentes sur l'insécurité ou l'itinérance. La différence principalement, ça serait les transports et le logement, peut-être la manière dont on veut augmenter le taux d'occupation des logements et de créer des logements, peut-être moins de bureaucratie, peut-être imposer plus de quotas de logements à faible coût pour des faibles revenus. Mais je trouve que c'est principalement les transports qui sont un enjeu. Alors à Sherbrooke, c'était un petit peu différent parce qu'on n'a pas de tramway, on n'a pas de métro, on n'a pratiquement pas de train entre Sherbrooke et Montréal, mais c'était principalement les bus. Et ici, tout le monde était en faveur des bus. C'était plus, est-ce que tu es pro-business ou moins? Est-ce que tu veux gérer la ville de manière plus démocratique et pluraliste ou pas? Mais en réalité, même Bibo elle-même qui voulait faire, je ne sais plus exactement le terme, des consortiums, faire des rassemblements clos avec des citoyens, elle était plus à droite économiquement, vu qu'elle était au Parti libéral fédéral, que Raïs Kibonge. Mais malgré ça, elle présentait tout de même des choses, des consortiums, des tables de rencontres avec les citoyens. Donc c'est tout de même beaucoup plus compliqué de voir les différences idéologiques ou de convictions entre les candidats à la mairie ici. Voilà, c'est ça.
Très bien. Merci beaucoup pour ce premier jet. Effectivement, c'est bien vu un peu la comparaison avec Game of Thrones, justement. C'est comme ouais. Je disais, ça s'y connaît un peu plus en France et on va être un peu plus sur des Game of Thrones. Ici, ça va être un peu plus calme. Et effectivement, c'est sûr qu'on assiste à une politique un peu plus progressiste sur certains points, mais de ce que j'ai cru comprendre, certains points assez précis, quoi, surtout l'investissement dans des transports, dans peut-être certaines mesures sociales, mais peut-être pas des changements de grande ampleur comme par exemple ce que voudrait Québec solidaire pour le Québec ou le NPD pour le Canada. Donc je propose de continuer après la courte pause. Bref, nous reprenons la discussion et donc je voulais axer le cœur de pas mal axer le cœur de cette discussion autour des sujets débattus, en fait, des principaux sujets débattus pendant les débats parce que je les ai écoutés et j'ai surtout relevé quatre grands thèmes. Donc, qui sont un peu très vagues, généralistes, mais que je pensais forcément pertinent d'aborder, et surtout qu'il y a des choses à dire là-dessus. Donc, ces quatre grands thèmes étaient pas mal l'économie, la sécurité, la mobilité et enfin la démographie. Donc, je te propose qu'on commence par l'économie. J'ai parlé des grands projets qui étaient réputés un peu plus progressifs sur l'investissement dans des mesures sociales en faveur des itinérants notamment, ou aussi des investissement dans certains transports en commun qui étaient jugés plus durables pour l'environnement. Donc ces investissements, comme le nom le dit, qu'investissement, ça implique des coûts, et forcément le coût de ces mêmes investissements a été beaucoup débattu. Cet aspect a été au cœur pas mal des débats, des différents débats. Et certains candidats, j'ai remarqué, je ne pense pas que ce soit exclusif à cette année-là, je pense qu'il y a dû y avoir avant, pour les élections de 2021 ou 2017 par exemple, certains se démarquaient en visant une gestion beaucoup plus responsable du budget municipal. Donc ma liste n'est pas exhaustive, mais je pense par exemple à Guillaume Briand à Sherbrooke ou à Gilbert Thibaudeau à Montréal. Tandis que d'autres, donc des maires sortants, mais pas que, voulaient continuer à investir, surtout dans la lutte contre l'itinérance, ou bien concrétiser certains projets comme le tram de Québec dont les travaux n'ont toujours pas commencé. Donc ainsi, voilà, c'est des questions très d'une grande banalité, mais c'est ça en fait. Enfin, les principaux débats, c'était entre est-ce qu'il fallait investir davantage ou est-ce qu'il fallait se restreindre. Ou bien est-ce que le débat est un peu plus complexe que cela ? Donc j'aimerais avoir ton avis. Est-ce qu'il y a eu vraiment genre une grosse opposition entre davantage d'investissements ou bien davantage de restrictions ? Ou est-ce qu'il y avait des candidats qui étaient un peu entre les deux ? Enfin, est-ce que c'était un sujet selon toi ?
C'était un sujet. Alors le sujet de la finance, du budget, c'est tout de même peut-être le sujet le plus gros dans toutes les villes pour les municipales. Marie-Claude Bibeau, celle qui vient d'être élue à Sherbrooke, elle critiquait énormément le parti au pouvoir de Raïs Kibonge sur la manière dont il gérait les finances, l'endettement de la ville, le matraquage fiscal, par exemple la taxe piscine sur l'asphalte, qui ont fait que beaucoup de personnes qui sont plus aisées, qui vivent dans des maisons, et Québec, on connaît que la densification urbaine est très faible dans les villes. C'est aussi le même cas à Lévis, par exemple, où beaucoup de personnes qui sont riches, qui vivent de voitures, n'aiment pas voir une taxe sur leur piscine, parce qu'ils vivent dans des maisons, beaucoup ont des piscines. On aime bien profiter de l'été ici au Québec, vu que l'hiver est tellement rude. Les taxes sur l'asphalte, le goudron, en plus, les villes sont tellement grandes que, dis donc, le réseau de routier, il est très large comparé à la France. Donc c'était un très très gros enjeu, c'était un très gros sujet. J'ai beaucoup écouté les élections municipales à Montréal et je trouvais que c'était un sujet, mais pas aussi gros que dans des villes plus petites où il y a moins de soucis d'insécurité, il y a moins de soucis de transport, il y a moins de soucis aussi avec les grèves. La grève de la STM était un sujet pendant les derniers jours des municipales à Montréal. Il y a un problème d'insécurité qu'on n'a pas à Montréal qui n'est pas aussi gros qu'ici, aussi d'itinérance. Donc c'est ça. Mais le budget était vraiment un gros sujet. Et on pouvait voir clairement des personnes qui étaient plus fiscalement conservateurs que d'autres, juste en voyant comment ils voulaient critiquer le budget. Par exemple, on pouvait se dire que certains candidats, peut-être comme... même Guillaume Briand tout le monde voulait limiter le déficit. C'est vraiment un gros sujet au Québec et au Canada. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ultimement on pouvait voir que certains maires qui sont plus à gauche, ils veulent limiter le déficit mais sont plus en faveur de grands projets sociaux ou de grands projets de grands ensembles.
C'est une réflexion qui vient, ces candidats plus de gauche, réputés plus progressistes qui voulaient limiter le déficit eux-mêmes, ils voulaient eux-mêmes le combler par exemple. Un argument que j'entends souvent dans les milieux progressistes, c'est que pour limiter les déficits, Ce que certains pensent, c'est que si tu investis dans des gros projets, ces projets, à terme, permettraient d'obtenir certains gains et ces gains permettraient de rembourser les déficits.
Oui.
Est-ce que c'est ça l'argument ou...
Alors, ça, c'est une partie de l'argument. Et c'est une raison pourquoi Bruno Marchand a si bien gagné la ville de Québec face à des candidats qui étaient plus fiscalement conservateurs. Et c'est ça qu'on voit la différence entre le Québec et la France, c'est qu'en France, les élections municipales, la droite est pour les transports publics. Elle mise à fond sur les transports publics parce que c'est un incubateur de croissance économique. Le projet du Grand Paris Express, un projet qui coûte des dizaines de milliards d'euros pour créer des nouvelles lignes de train et de métro régionaux autour de Paris, est un projet qui a été mis en place par Nicolas Sarkozy, président qui est maintenant en prison, et était clairement ancré à droite économiquement. Et parce que beaucoup de personnes comprennent que créer des projets massifs d'infrastructures, de trains, de mobilité, ou alors tout simplement des stades ou des zones commerciales, tout ça, ça stimule de la croissance et plus de revenus pour les caisses de la ville. C'est ça. Donc c'est une vision assez étatiste des choses, mais c'est une vision que beaucoup de candidats avaient. C'était aussi... là, on pouvait voir une sacrée différence. C'était par exemple avec... la ville de Lévis, où ils ont élu un maire qui était avant un ministre conservateur fédéral. Et ils ont vu l'étalement de la ville s'étaler et s'agrandir aussi vite depuis 15-20 ans qu'ils ont vu qu'il fallait élire un maire qui était tout de même assez à droite dans leurs yeux. Déjà que c'est une circonscription assez conservatrice tout de même dans la région de Québec. Et ils ont dû élire ce maire pour être capable de tacler les problèmes déficitaires. Mais en vrai, leur ville n'a pas l'air d'être aussi déficitaire que cela. Mais on peut voir vraiment les différences électorales par rapport au budget de ville en ville des fois. Montréal, c'était pour un sujet. À Québec, c'est ça, on veut limiter. Pour eux, c'est un stimuleur de croissance, les transports publics. À Sherbrooke, c'était différent. Tout le monde voulait limiter le budget, mais certains voulaient des projets de grands ensembles qui pouvaient stimuler la croissance. D'autres étaient moins intéressés, plus une économie locale avec des petits quartiers. Beaucoup étaient contre la densification urbaine aussi, parce que certains disent que c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent une ville apaisée. Et d'autres disent qu'on veut de la densification urbaine, ce qui manque énormément en vrai au Québec en tant que Français et qu'Européen, parce que ça, vraiment, c'est un stimuleur de croissance vraiment, vraiment conséquent.
Très bien, merci. Il me semble que tu as abordé un petit peu un autre sujet, c'est la sécurité sur le fait que certains investissements qui iraient plus vers cet aspect, au contraire. C'est sur la sécurité, en fait. Donc ça, c'est un autre aspect qui a été particulièrement soulevé dans les débats. Et j'ai l'impression, éventuellement, plus qu'avant, en fait, c'est un débat qui soulève les municipalités, forcément, mais peut-être un peu plus le Québec et le Canada, et plus qu'avant, j'ai l'impression. Parce que ça, c'est une autre remarque de français que je vais me permettre de faire. C'est que les villes au Québec, de mon propre vécu, depuis que je vis ici, depuis quelques années, j'ai toujours trouvé qu'elles ont été très sécuritaires, enfin relativement sécuritaires, y compris Montréal. Du moins, quand je compare aux villes en France, chez moi, en fait. Et donc là, au Québec, qui est réputé être un havre de paix pour beaucoup de Français comme moi, mais aussi beaucoup d'étrangers, et même beaucoup de Québécois de base, là, pour la première fois depuis quelques années, on parle d'une certaine dégradation. Et y compris dans des plus petites villes comme Drummondville, j'ai vu dans certaines infos. Et donc, bref, une aggravation de la délinquance et de l'insécurité et de l'atteinte aux personnes, notamment. Et dans tous les débats qu'on va associer ça, le plus souvent, à la question de l'itinérance. Et là, forcément, les tendances plus progressistes vont remettre ça dans le contexte de leur projet social. Donc, ils vont dire qu'on va s'attaquer à ça en continuant à investir davantage pour une meilleure prise en charge des itinérants, en investissant notamment dans des logements ou dans des programmes en tout genre. Alors que peut-être que la droite, elle, ne va pas... Enfin, la droite municipale, ceux qui sont, dont on parlait, qui étaient peut-être souvent plus restreints sur le budget, mais ouais. Ceux qu'on va classer habituellement plus à droite... Eux, bon, ils ne vont pas nier ces aspects-là, mais ils vont, eux, beaucoup plus parier sur la répression pure et simple, notamment par l'investissement dans les services de police et peut-être plus dans la justice aussi. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, sur ce que tu as remarqué sur le traitement de la question sécuritaire aux élections municipales.
Alors, moi, je connais très bien les élections municipales en France. Et c'est très intéressant la manière dont au Québec, on parle des élections, des enjeux d'insécurité et d'itinérance. Déjà, en France, on ne parle pas vraiment de sujets d'itinérance. On a beaucoup d'itinérants. On en a beaucoup plus qu'au Québec. On a en plus un taux de chômage et une économie qui est peut-être moins active qu'au Québec aussi. Mais l'itinérance, ici, est vue avant tout par un côté social et humain. En France, c'est moins le cas. Et en même temps, l'insécurité en France, c'est à des niveaux assez catastrophiques, je dirais. Mais moi-même, j'ai été victime de pickpocket ou de vol quand je vais en banlieue parisienne ou même à Paris. Ici, je trouve ça très marrant quand un de nos meilleurs amis à Sherbrooke nous disait il y a 2-3 ans que Sherbrooke est réputée comme une ville un peu dangereuse au Québec. Et je me suis dit, c'est vraiment possible. Oui, c'est vrai que les standards sont différents, mais il y a une crise d'itinérance et il y a une crise d'insécurité. Et c'est vrai que ça s'empire depuis quelques années. Le prix de l'immobilier explose. Mais vraiment, on compare l'immobilier, le prix moyen d'un appartement à Montréal en 2010 par rapport à maintenant, je pense que le prix a augmenté de 40%. Et les salaires n'ont pas suivi de 40% depuis cette période. L'économie se porte moins bien qu'en 2010 aussi, ça c'est clair. Donc il y a plus de personnes qui sont à la rue malheureusement. Et donc c'est un enjeu que tout le monde veut défendre. Et s'il y a quelque chose qui unifie tous les candidats dans toutes les villes, c'est construire plus. Après, comment est-ce qu'on construit plus ? Il y en a qui vont dire, on va alléger par exemple, les personnes qui sont peut-être plus fiscalement conservateurs, comme à Lévis, ou même avec Marie-Claude Bibeau, ça va être, on va alléger les charges sociales, on va alléger le processus bureaucratique pour simplifier la construction et le projet de construction de logements. Les personnes qui sont en revanche, plus à gauche, par exemple, on peut penser à Luc Rabouin ou alors à Craig Sauvé à Montréal. C'était davantage, on va enlever le 30-30-30, on va enlever le 30% de logements pour les faibles revenus. 20-20-20, oui, c'était le 20-20-20, exactement, 20-20-20. Et donc, justement, 20% de logements à faible revenu, 20% pour les familles, 20% pour ceci. Et ensuite, le 40%, le privé fait ce qu'ils veulent, mais généralement, ça va être des logements de luxe. Et beaucoup veulent augmenter ça, peut-être faire du 30-30-30, justement, peut-être faire du 40-20-20. 40, ce serait principalement pour les logements à plus faible revenu. Et c'est tout ça. Le problème, c'est encore une fois, il y a toujours l'enjeu de l'endettement, il y a toujours l'enjeu du budget, mais tout le monde veut créer plus de logements. Et il y en a qui établissent des cibles différents. Il y en a qui peuvent dire, par exemple, à la ville de Québec, le débat, c'était vraiment... je vais construire 20 000 logements, je vais construire 15 000 logements, je vais construire 10 000. La personne plus fiscalement conservatrice va dire « Mais vous pouvez pas construire du 20 000, c'est impossible. Regardez ce que vous avez construit depuis les 4 dernières années. » Donc c'est vraiment un enjeu titanesque au Québec. Et il y en a qui veulent l'appréhender de manière différente. À Sherbrooke, on parlait beaucoup de densification urbaine. Et justement, ça a été annoncé il y a à peine quelques jours, la construction de 180 logements sur la rue Pacifique. C'était quelque chose que, par exemple, le candidat Guillaume Briand du parti Vision Action Sherbrooke était en faveur. Enfin, je ne sais pas s'il voulait exactement ça, mais il voulait convertir les anciens hangars, les anciennes usines qui, c'est vrai, en France... c'est je ne sais pas la différence bureaucratique vraiment, parce qu'en France, on est réputé pour être extrêmement bureaucratique. Mais dès qu'il y a un parking abandonné, dès qu'il y a un bâtiment abandonné, je donne moins d'un an pour que ça soit remplacé par un nouveau bâtiment. Ici, on peut être au centre-ville, un bâtiment désaffecté depuis 10 ans, 20 ans. Ils n'en font rien. Et ça, c'est ce que je trouve de très dommage. Il y a moins de dynamisme par rapport au logement, on peut se dire ici, qu'on a en Europe. Je ne sais pas si c'est à cause des restrictions budgétaires, etc. Ou voilà. Mais c'est ça. Et aussi, par rapport au logement, et par rapport aussi aux finances en général, quand on avait écouté la mairesse de Gatineau, Marie-Claude Bissonnette, quand on écoutait Catherine Fournier à Longueuil, ou Soraya... elles disaient toutes que beaucoup des logements, la construction de logements, le dynamisme économique, les budgets, les revenus, faire des choses dans les villes, dépend avant tout de l'argent qui venait du provincial. Et quand on voit la volonté aussi du provincial, comme le fédéral, techniquement, de limiter les budgets, les dépenses, d'abaisser la dette, on voyait un petit peu, je les ai vus sur le plateau télé sur Radio-Canada, qui était un peu stressé et angoissé que Québec nous donne moins de financement, Québec nous donne moins d'argent, donc on ne peut pas vraiment baisser l'endettement et en plus créer des logements pour accueillir les nouveaux arrivants dans toutes les villes. Donc ça, c'est un gros enjeu. Et ça, c'est un enjeu qui est partout en France, c'est la même chose. Nous, les localités, les régions, les départements, les villes, on a besoin de financement du gouvernement. Et vu que l'économie ne pète pas du feu de Dieu, on n'est pas capable d'avoir ce type de revenus. Voilà.
Merci. Ça renvoie aussi un peu à ce que je disais tout au début sur le centralisme relatif au Québec, ce dont beaucoup de maires vont se plaindre. Donc de ne pas avoir beaucoup de marge de manœuvre, et cette marge de manœuvre, ça inclut justement aussi des financements. Ce n'est pas juste un pouvoir strict, mais c'est aussi obtenir un certain nombre de financements depuis d'abord le fédéral, puis le provincial. Donc effectivement, et je ne suis pas étonné que, comme tu dis, il se met à y avoir des soucis sur, notamment, tu es venu surtout sur le logement, après être venu sur la sécurité, qui, je pense qu'effectivement, un des grands impacts de justement ce centralisme ou de cette restriction budgétaire, c'est en partie justement ces...
Mais en vrai, si je peux rajouter un petit peu sur l'itinérance, parce que c'est vrai que j'ai dévié vers le logement, mais je n'ai pas mentionné assez l'itinérance et l'insécurité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tout le monde veut apporter un côté humain à ça. Un côté humain, un côté psychologique. Donc ce que beaucoup de candidats ou de maires élus veulent faire, c'est créer des brigades ou des personnes, par exemple comme à Montréal, qui vont aider et toucher directement à l'itinérance, parce qu'ils disent que c'est un problème avant tout personnel, un problème de mental, un problème de santé mentale, un problème de précarité, et donc il faut toucher cela, pas avec avant tout de la répression. En réalité, on regarde tous les candidats, ils veulent tous plus de police, ils veulent tous plus d'investissement dans la police, mais ce qu'ils veulent aussi, c'est réaffirmer un aspect humain. Moins de répression, et parce que, est-ce que... après, au Canada, au Québec, c'est pas très... pas beaucoup de répression comparé en Europe et dans beaucoup en Occident, c'est beaucoup plus soft, mais malgré ça, c'est un peu la technique qui est utilisée depuis bien longtemps. Est-ce que ça serait bien, pour beaucoup de maires, d'utiliser une autre technique qui est d'apporter l'aspect humain? Donc aider les personnes à avoir des logements temporaires pour qu'ils restent dedans, avoir des soutiens santé mentale, à la santé physique tout court aussi, pour être capable de limiter dégénération qu'il peut y avoir ou les soucis qu'il peut y avoir avec la croissance de l'itinérance, pour être sûr qu'il y ait de la cohabitation tranquille entre les itinérants et les habitants des quartiers. Et ça, c'est un aspect humain, social, qui est beaucoup mise en valeur par beaucoup de candidats au Québec. Pratiquement tous les candidats, Marie-Claude Bibeau parlait à Sherbrooke, parlait beaucoup de ça. Elle parlait beaucoup de, il faut sa vidéo, sa petite vidéo capsule sur l'itinérance, elle commençait immédiatement, la santé mentale, la santé physique, il faut toucher à ça, il faut aider les plus démunis, etc. Alors que c'est beaucoup plus une manière autoritaire et régalienne qu'on a en France, par rapport au Québec.
Non, mais c'est effectivement ce que tu dis, ça renvoie toujours vers ce que je disais au début, surtout quand je faisais la comparaison avec la France. Ici, la politique municipale semble un peu plus consensuelle, en fait, quand tu penses. Consensuelle dans le sens, par rapport à ce que tu disais, autant sur, tu sais, pour la sécurité, les candidats, qu'ils soient plus progressistes ou plus conservateurs, vont toujours avoir ce mix, en fait, entre le côté humain, comme tu dis, mais le côté aussi un peu pratique, un peu plus répressif, en fait. Ça va toujours être un peu des deux, et ça ne va pas trop pencher vers l'un ou l'autre, en fait. Ils vont vers l'un sans oublier l'autre. Alors qu'en France, je caricature peut-être un peu, mais dans la plupart des villes, comme j'ai dit, c'est souvent l'opposition gauche-droite qui reste toujours prégnante. Et la gauche va toujours être beaucoup plus dans ce côté, humain, et la droite dans ce côté beaucoup plus purement répressif. Mmh. Il peut y avoir des deux à chaque fois, mais les débats vont être beaucoup plus marqués par cet aspect-là, par cette dichotomie.
Voilà, c'est ça. La seule chose qui peut potentiellement faire consensus au municipal en France, c'est peut-être le transport. Mais après, la différence, c'est tout le monde est pour le transport, mais à quel degré? Il y en a, c'est beaucoup plus que d'autres, mais c'est tout de même 100 fois plus qu'au Québec.
Oui. Très bien, merci. Sans grande transition, je voulais passer à un autre aspect. Avant-dernier sujet tant débattu pendant ces élections, c'est tout simplement la mobilité, en fait. Donc, parmi les investissements dont je parlais, ces investissements visaient surtout la mobilité. Des politiques en ce sens, comme toujours, je répète encore, le projet de tramway à Québec. Mais on en parle aussi dans d'autres villes. Enfin, un autre aspect qui revient souvent, c'est tout simplement les pistes cyclables, en fait. On parle beaucoup de pistes cyclables. Et il y avait un débat aussi où j'ai vu pas mal de caricatures en ce sens. C'est le fait de déblayer ou non en hiver les pistes cyclables pour faire en sorte qu'elles soient toujours, qu'elles puissent toujours être utilisées en hiver. Et forcément, les détracteurs, donc peut-être plus vers la tendance plus conservatrice et beaucoup plus pessimiste, en tout cas par rapport à ça, ils vont voir tout simplement comme ces initiatives-là comme une guerre aux chars. Donc pour toi, est-ce qu'il y a une certaine guerre aux chars aux dernières élections ? Est-ce que c'était un sujet qui était tant central que ça ? Ou est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui étaient abordés pendant ce sujet ?
La guerre aux chars, c'est tout de même faire le combat face aux chars. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Peut-être qu'elle est un peu moins maintenant. Montréal, ils ont élu Martinez Soraya. Et elle est tout de même celle qui était pour limiter les pistes cyclables. Et Gilbert Thibaudeau aussi, le vote d'excellence pour pas mal de souverainistes à Montréal. Ils étaient tous ces candidats étaient pour limiter les pistes cyclables, pour donner plus de place aux voitures, dire qu'il y a trop de cônes orange dans les rues de Montréal, c'est trop des chantiers à ciel ouvert. À Sherbrooke, c'était bibon, on peut dire un peu la même chose. Après, la guerre aux chars, c'est un truc qui est vraiment beaucoup plus d'actualité dans les métropoles, donc à Québec et à Montréal. À Québec, est-ce qu'il y a une guerre aux chars ? Pas autant que ça, parce que tout de même, quand on voit que la plus grosse ville avoisinante, c'est Lévis, qui, eux, veulent le troisième lien, veulent des agrandissements d'avenues pour les chars, et ce sont tout de même, c'est un peu les conservateurs de Québec, il y a moins une volonté de guerre aux chars. Si Valérie Plante, Luc Grabois ont perdu la mairie de Montréal, c'est parce que justement, par contre, là, Montréal, beaucoup de personnes voulaient faire une guerre aux chars. Mais il faut aussi comprendre un truc. C'est que les Montréalais, par exemple, c'est comme les Parisiens, ils n'ont pas essentiellement des chars. Alors ici tout de même, mais ils n'utilisent pas autant le char que les personnes qui habitent en région ou en banlieue. Et disons qu'on peut avoir des Montréalais qui disent non aux chars, non aux SUV, non à ceci, mais il y a tout de même 2 millions, 3 millions d'habitants, non plus 2 millions, qui habitent autour de l'île de Montréal, qui ne votent pas pour les élections municipales à Montréal, mais qui dépendent complètement du char pour vivre, pour travailler à Montréal. Tous les Lavallois, tous ceux qui sont en Longueuil, tous ceux qui sont en Brossard. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a le REM. Et le REM, d'ailleurs, va être étendu jusqu'à Deux-Montagnes, ouvert le 14 novembre, si je me souviens. Mais donc, il y a des millions d'habitants qui habitent en dehors des grandes villes. C'est un conclut la métropole, mais qui n'ont pas le droit de vote à Montréal parce qu'ils n'habitent pas à Montréal. Mais eux dépendent des voitures. Et je peux t'assurer que si on inclut les banlieues, si on inclut le vote entier du Grand Montréal, le vote serait beaucoup plus pro-voiture que des personnes qui vivent à l'intérieur, qui ont des transports publics qui sont denses, qui sont efficaces, alors que ceux qui sont en banlieue n'ont pas vraiment de transports publics. Donc c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une différence de vote, alors que ceux en banlieue dépendent de la ville de Montréal et de sa politique pour y travailler, et peut-être, voilà, c'est ça. On ne peut pas aussi vraiment dire qu'il y a une grande guerre aux chars tant qu'il n'y a pas des offres alternatives de transport public de masse. À Montréal, je vais être très franc, si les auditeurs ne comprennent pas déjà, c'est que je suis un grand défenseur des transports publics. Hein. Et qu'on soit de gauche ou de droite, il y a des super arguments pour les transports publics. Même pour les personnes de droite qui peuvent être assez dubitatifs sur les transports publics, ça marche super bien. Le Japon, c'est un pays ultra à droite et ils ne regrettent pas d'avoir fait le Shinkansen. Mais ultimement, s'il y avait vraiment une volonté de faire face aux chars, il faudrait qu'il y ait une alternative de transport public de masse. Et même à Montréal, ils ne le font pas vraiment. Ce qui manque à Montréal, c'est au moins deux lignes de métro. C'est une automatisation peut-être aussi du système. À Québec, ça aurait été peut-être que le tramway aurait été fait depuis longtemps. Et en réalité, à Québec, il y a beaucoup de personnes qui sont contre le tramway. Si je me souviens des sondages, la majorité, il y a plus de personnes qui sont contre le tramway qui sont pour le tramway. Il y a plus de personnes qui dépendent du char et qui adorent le char, etc., et qui ne veulent pas de tramway. Mais ils ont tout de même élu Bruno Marchand avec un très bon score. Parce que vraiment, on se rend compte que même les personnes qui sont pro-char et contre transport public se disent « Crès, ça fait plus de 15 ans, 20 ans qu'on parle du tramway, il est toujours par là, finissons-en une fois pour toutes, faisons le tramway à Québec, et on verra comment ça sera, et comme ça, c'est plus un débat, c'est plus un sujet, et ça sera fait. » Voilà, c'est ça. Donc en vrai, même beaucoup de personnes qui sont pour le char sont on votait pour Marchand pour se dire « Bon, allez, faisons ce tramway une fois pour toutes. Là, ça fait 20 ans qu'on radote dessus. Voilà. »
Merci beaucoup. Je pensais ainsi passer au dernier aspect débattu avant la dernière pause. C'est la démographie. C'est une démographie qui revient pas mal souvent et qui est pas mal liée à tous les sujets qu'on vient d'évoquer, enfin les trois précédents surtout. Car beaucoup de villes, donc pas juste forcément aux élections, mais on en parle de plus en plus, beaucoup de villes et de toutes les tailles font de la démographie un enjeu. Parce qu'on parle souvent de villes qui perdent de la démographie, où il y a un certain déclin démographique de ces dernières années. Et les enjeux de la démographie, ce n'est pas juste attirer des nouveaux arrivants, se rendre attractif pour... L'attractivité, ce n'est pas juste attirer des nouveaux arrivants, c'est aussi retenir ses propres ressortissants. Les gens qui sont nés dans ta ville, le fait de les retenir, qui restent pour notamment étudier, travailler, et toute leur vie dans la même ville. Donc cet aspect de la démographie a été pas mal un enjeu. Ça dépend peut-être des villes, mais en tout cas, ça l'a été à Montréal, ça l'a été aussi à Saguenay. Enfin, c'est dans les deux principaux débats où je l'ai entendu. Et j'aimerais ainsi avoir ton avis là-dessus.
Oui, c'est vrai que l'enjeu de la démographie, c'est comme l'enjeu du logement. La démographie, ça fait tout. T'as pas d'habitants, t'as pas autant de dynamisme économique. T'as trop d'habitants, ça impacte. Il faut construire plus de logements, il faut construire plus d'hôpitaux, il faut construire plus d'écoles. Et ensuite, si t'as pas assez de ces employés, peut-être que t'as besoin d'un nouvel hôpital, parce qu'il y a plus d'habitants. Mais donc ensuite, il faut des docteurs qualifiés. T'habites en région à Rimouski, il faudra que tu travailles un peu plus que si t'étais à Montréal pour te trouver le docteur dans une maladie spécifique, etc., que tu n'as peut-être pas dans les 4 heures à la ronde autour de Rimouski. Et Rimouski en a besoin. Je dirais une ville aussi où on parlait pas mal d'enjeux de démographie et d'habitants, c'était la ville de Gatineau. Marie-Claude Bissonnette, la maire sortante, a été réélue, mais de justesse. Enfin, de justesse, pas autant que ça. Mais quand on regarde Catherine Fournier qui se fait 88%, quand on voit Soraya, une candidate plus à droite, qui fait pratiquement 8% de plus, ou Bibot qui gagne Sherbrooke avec 20% de plus que la deuxième place, c'est un peu plus serré à Gatineau. Et justement, c'est un peu plus serré parce qu'un des enjeux, il y a plusieurs enjeux, il y avait l'enjeu du tramway, etc. Mais c'est aussi que Gatineau, c'est une banlieue d'Ottawa. Et les habitants de Gatineau, beaucoup, pour certains, fuient Gatineau pour aller à Ottawa. Parce qu'en Ontario, il y a moins d'impôts, il y a moins de taxes, la vie coûte moins cher.
Désolé à t'interrompre, mais je pensais que c'était plutôt l'inverse. Je pensais plutôt à des gens qui, à l'inverse, partaient d'Ottawa pour aller à Gatineau. Peut-être pour d'autres aspects, tu vois, Gatineau, c'est un peu un cliché. C'est comme Ottawa, on dit que c'est une ville de fonctionnaires. Et j'entends souvent que c'est des fonctionnaires fédéraux qui vont vivre à Gatineau, car ils considéraient peut-être un peu plus comme une sorte de banlieue d'Ottawa, de banlieue de Chile, d'une certaine manière. C'est des gens d'Ottawa qui vont à Gatineau parce que simplement les bars ferment plus tard à Gatineau. Mais ok.
C'est aussi que je vois moins d'anglo aller au Québec. En plus, pour parler le français, je vois plus de Québécois qui parlent déjà l'anglais aller à Ottawa. C'est vrai que Gatineau a une croissance de population. C'est vrai qu'il y a plus de dynamisme économique qu'avant. Mais par exemple, Marie-Claude Bissonnette avait dit à Radio-Canada il y a 2 jours qu'il perd des docteurs. Il y a le CHU de Gatineau, alors je pense qu'il y en a plusieurs, mais un de leurs principaux... Ils avaient 3-4 docteurs qui sont partis des 2 dernières semaines travailler à Ottawa ou ailleurs dans des villes plus dynamiques. Et donc ça, ça peut être terrible pour une ville. Hein. Des fois, pour des villes de taille moyenne, tu perds 5-10 docteurs qui touchent des sujets spécifiques de médicaux dans une ville. Tu peux voir peut-être ta ville baisser au fur et à mesure du temps 10 000, 20 000 habitants juste à cause de ça. C'est un gros enjeu. Après, il y a aussi, tu parlais de Saguenay. Saguenay, c'est une ville qui, disons que toutes les villes au Québec ont des croissances de population. Trois-Rivières, c'est pas mal. Lévis, c'est pas mal. Montréal, ça baisse. Laval, ça augmente, etc., etc. Mais Saguenay, ça baisse. Ils ont un problème, je sais, un vieillissement de la population. Il y a les jeunes qui fuient. On a tout de même pas mal de Saguenayens qui sortent de la ville et de la région, qui viennent étudier à Sherbrooke, d'ailleurs. Donc, ils ont un problème, ils ont un déclin. Et même, beaucoup de personnes disent qu'il faut pallier le manque d'habitants par l'immigration, mais il n'y a pas une immigration de masse au Saguenay. L'immigration, principalement, ce sera peut-être avec l'université j'ai oublié le nom de leur université, mais l'université du Québec à... C'est pas Saguenay, c'est Chicoutimi, si je me souviens.
UQAC, ouais.
Voilà, l'UQAC, exactement. Et eux, ils ont des étudiants, par exemple, qui peuvent venir d'Afrique ou du Maghreb, mais il n'y en a pas énormément que ça. Ensuite, à Montréal, c'est une critique du parti actuel, c'est que les habitants fuient Montréal pour aller dans la banlieue. Ça, c'est aussi un gros sujet.
Merci beaucoup. Après la pause, nous essaierons d'établir un bilan global. Nous reprenons l'émission pour la finir, tout simplement, et ainsi faire un bilan général de notre discussion, notre fameuse discussion sur les élections municipales au Québec. Donc, c'est une question générale que j'ai. C'est, sur le coup, est-ce qu'on a assisté à tant de changements que ça aux dernières élections ? Parce que j'ai beaucoup parlé, j'étais beaucoup interrogé sur les tendances qui existaient entre 2021 et 2025. Et les maires qui ont été élus ou réélus, est-ce qu'il y a ça note un changement ? Parce qu'il y a certains maires qui ont été élus, notamment, je pense, à Montréal, donc Soraya Martinez, à Sherbrooke, Marie-Claude Bibeau. Et en fait, voilà, pour ces deux grandes villes, ça sonne comme une tendance à première vue. Parce que ce sont tout simplement des anciennes ministres libérales. Il faut aussi savoir que Saguenay, une candidate libérale dont j'ai oublié le nom malheureusement, était donnée gagnante à l'origine, mais finalement perdante au dernier moment.
André Laforest, je pense.
Merci. Et qui en fait était elle-même ancienne ministre libérale. Donc c'est comme trois anciennes ministres libérales fédérales qui se sont présentées et qui ont pratiquement été élues toutes les trois. Et c'est pour savoir, est-ce qu'il y a une signification particulière, selon toi, derrière ce constat ?
C'est vrai qu'à Saguenay, c'était peut-être la ville au Québec la plus intéressante pour les municipales, parce que la maire sortante, c'était Julie Dufour, qui a été élue aux dernières élections. Elle a fait 2,5%, elle est arrivée en quatrième place. Donc une maire sortante qui fait 2,5%. Alors qu'on voit Catherine Fournier à Longueuil qui fait 88, on voit Stephen Boyer à Laval se faire 55%. C'était étrange, mais parce que j'avais fait moi-même fait de mes recherches, j'ai vu qu'elle avait fait une gouvernance très moyenne, elle avait même fait de la corruption électorale où elle a triché aux dernières élections 2021, elle a été jugée pour ça, elle voulait pas que trois de ses candidats opposants se présentent. Donc elle a perdu à 2,5% des voix, elle a fait 2,5% des voix, et c'était le candidat Luc Boivin qui a gagné à 45% des voix, juste 200 voix, donc 28 700 face à 28 500 pour la ministre libérale. Donc c'était une différence de 0,4% pour la ville de Saguenay. Alors, est-ce qu'il y a un changement, comme tu demandes, par rapport aux dernières élections ? Oui et non. À Sherbrooke, il y a un changement. On est passé d'une mairie qui était assez à gauche, qui adorait s'ancrer dans le local et dont la mairesse était Evelyne Baudin, qui était fondatrice d'Option Nationale. Option Nationale, c'est comme Québec solidaire, mais encore plus souverainiste. Et là, on passe à Marie-Claude Bibeau, qui est une fédéraliste, qui a été ministre du Revenu sous Justin Trudeau. Donc il y a une différence tout de même. Un parti plus souverainiste économiquement de gauche, à un parti qui est moins économiquement de gauche, peut-être plus à droite, et qui est d'origine, elle a été candidate indépendante, mais elle est d'origine libérale. Et en plus, d'ailleurs, son mari était maire dans les années 2000 de Sherbrooke. Il n'y a pas de changement pour la périphérie de Montréal. C'est toujours Boyer qui est maire de Laval. C'est toujours Catherine Fournier qui est maire de Longueuil. C'est marrant parce que Marchand, Boyer, Marie-Claude Bissonnette à Gatineau, tous étaient vus comme les nouveaux arrivants pour les grandes villes québécoises aux dernières élections. Tous. Et là, maintenant, ils ont tous regagné leur ville avec des scores assez conséquents, peut-être un peu plus serrés à Gatineau. Parce que Gatineau, il y avait tout de même des enjeux assez lourds qui étaient sur le tramway, qui étaient sur le logement, et qui est aussi que c'est une ville aussi frontalière avec Ottawa, qui est en Ontario. Donc tout de même, il y avait beaucoup de différences, etc. Et donc, c'était un peu plus serré. Donc, à Sherbrooke, il y a une différence. À Saguenay, il y a une différence. Trois-Rivières, c'est pas le même maire. C'est un nouveau maire aussi. Il s'est pas représenté. À Québec, c'est la même chose. À Montréal, c'est une différence. Montréal, c'est intéressant tout de même. Parce que quand on voyait Denis Coderre, qui avait gagné la municipalité de Montréal en 2000... alors, je me souviens plus exactement l'année, mais c'était au début des années 2010. C'est 2000, 2012, 13, 14, quelque chose comme ça. Il avait fait un mandat. Lui, c'est vu comme un parti qui est plus à droite. Et en tant que parti qui est plus à droite, dans les grandes villes, généralement, quand la droite gagne, il gagne avec un score plus faible que quand c'est la gauche qui gagne. Par exemple, disons qu'hypothétiquement, tu gagnes la mairie à 44% des voix et le gars qui est de gauche derrière toi est à 41%. Il y a juste 3% de différence, c'est minime. Mais là, tout de même, Soraya, qui est une personne qui est plus à droite, donc économiquement plus pro-business, qui est plus pour le droit des chars, qui est peut-être un peu plus ferme aussi pour les grèves, elle a tout de même gagné avec 8% de différence. C'est tout de même conséquent pour la ville de Montréal. Et en plus, le taux de participation aux élections municipales au Québec, en général, cette année, était mieux qu'aux dernières élections en 2021. Et malgré ça, il y a eu un vrai changement. Aussi, il y avait aussi une volonté de changement avec Gilbert Thibaudeau. Il se tape 1% aux dernières élections municipales, 2%. Et là, il passe à 10%. C'est tout de même très, très gros, très, très conséquent comme différence. Donc, dans certaines villes, il y a un changement. Dans certaines villes, il n'y a pas vraiment de changement. Ça dépend vraiment au niveau local. Ça dépend vraiment comment la ville a été gérée. Et tout cela. Il faut aussi tenir en compte qu'à Sherbrooke, c'est tout un changement parce que les dernières élections, il y avait une participation plus faible et qui était même plus en faveur des jeunes. Et donc, le parti de Sherbrooke Citoyen, bien de gauche, a été élu, mais ils ont été élus à peine avec 1 ou 2% de voix, plus que Steve Lussier, si je me souviens. Donc, c'est une différence tout de même assez minime. Ce qui fait que là, ils ont été battus à plate couture, en tout cas à Raes-Quibonge, pour ces élections, parce qu'il y a tout de même eu un taux de participation qui était tout de même plus forte et une mobilisation plus conséquente. On peut se dire aussi, peut-être, que c'est aussi un peu la victoire des boomers, ces élections. Il faut se rendre à l'évidence. Quand on était dans les années 50-60 ou même dans les années 20 en Occident, les jeunes, ils pesaient beaucoup plus électoralement. La différence, c'est que la différence entre un jeune et un vieux à l'époque était beaucoup plus minime. Quand à 15 ans, tu dois travailler à l'usine, après revenir de l'école, il y a moins de différence générationnelle entre un enfant et un adulte à l'époque comparé à maintenant. Mais là, le poids des âgés, des boomers, est beaucoup plus lourd qu'avant, électoralement, et ils votent davantage. On ne va pas se le mentir, Marie-Claude Bibeault qui a été élue à Sherbrooke, ce n'est pas vraiment le vote des jeunes. On est tous les deux à l'université de Sherbrooke, les jeunes, ils étaient clairement divisés entre Raes-Quibonge de Sherbrooke Citoyen, le candidat de la mairesse sortante, ou alors Guillaume Briand de Vision Action Sherbrooke, ou alors Vincent Boutin. Mais je pense que la candidate, alors peut-être pas, hein, mais je pense que la candidate qui a eu un des votes les plus faibles pour les jeunes, c'était Marie-Claude Bibeault. Mais c'est ça, c'est qu'au municipal, vraiment, les personnes jeunes ne votent pas vraiment au Québec. Ça, c'est un enjeu partout. Et le taux de participation reste faible. Cette année, je ne sais pas c'est quoi, mais je pense qu'à l'ensemble du Québec, on arrive à 40%, même 45% des fois. C'est tout de même pas mal, parce que ça se rapproche presque des élections municipales en France. Alors, peut-être pas les dernières qui étaient en 2020, parce que c'était un fiasco à cause du Covid, et on se tapait des taux de participation dans certaines villes à 20%. Genre Paris, je pense que c'était du 25-30%, donc c'était historiquement faible. Mais au Québec, ça commence à monter. Parce qu'en vrai, il faut se rendre compte que la politique municipale, c'est tout de même Genre, c'est peut-être la politique la plus plate, mais en vrai, c'est celle qui est la plus proche de toi. C'est celle qui te touche davantage. Ils peuvent te créer des petits impôts au niveau local. Ils peuvent te créer un parc si tu as des enfants. Ils peuvent se dire, on va rajouter une ligne de bus dans ce quartier-là. Ça peut changer toute la vie de quartier, juste créer une nouvelle ligne de bus, etc. Quand la nouvelle ligne de bus à Sherbrooke a été inaugurée cette année, qui fait Sherbrooke d'ouest en est, c'est super bien. Les gars qui vont à Fleurimont, qui vont jusqu'à l'ouest de Sherbrooke, c'est vraiment intéressant pour eux. Donc, le goudronnement, l'asphalte, enlever les nids de poules et tout ça. Donc, je pense qu'il y a un taux de participation qui est tout de même plus fort. Mais c'est sûr qu'il y a certains maires sortants qui se tapent des scores incroyables. Et il y en a quelques-uns qui ont été, bien sûr, battus. Mais quand ils ont été battus, généralement, ce n'était pas avec des différences gigantesques non plus.
Parfait. Merci beaucoup Aurélien pour ton intervention. Merci à tous mes auditeurs aussi, à tous nos auditeurs pour leur écoute tout simplement. Donc c'était le deuxième épisode de On jase politique. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour continuer à jaser politique tout simplement.
Peut-être merci parler de Zoran Mamdani en New York.
C'est éventuellement ce sur quoi on va parler. Mais chut. Allez, merci et bon après-midi à tout le monde.